Et donc on va un peu se présenter qui on est. Donc Lian.
Voilà, moi je suis producteur de...
Plus fort.
Je suis producteur de fromage de brebis, producteur de lait de brebis, donc sur les Vézoux, à Prades de Salars. Et donc je fais partie des locomotivés. Depuis bientôt 3 ans, 4 ans, 5 ans. Voilà.
Et tu es coprésident ?
Non, oui. Ouais.
Julie, moi je suis salariée des locomotivés. On est 2 salariés et consommatrice aussi. Voilà. Salariée et consommatrice.
Voilà. Toi, Benoît ?
Et donc moi je suis agriculteur ici à 1,5 km en sortant de Villecomtal. Donc on n'est plus sur Villecomtal, on est sur Mouret. C'est les particularités de Villecomtal, c'est-à-dire que la commune s'arrête juste ici au pont. Ouais. Donc on fait du yaourt, du fromage blanc, sur une exploitation qui fait 33 hectares, qui compte 18 vaches montbéliardes, et une pinoire, enfin une holstein, une simmental, pour ceux qui veulent. Qu'est-ce qu'elles font là ? Voilà.
Voilà. Et donc moi, Vincent Benoît, un des cofondateurs de l'association Locomotivé. Je suis consommateur essentiellement. Voilà, et j'aime bien m'occuper de faire émerger des groupes en milieu rural. Voilà, c'est un peu ma passion. Et on a créé cette association il y a 4 ans maintenant. Et le but, c'était de manger au plus proche. Voilà. Donc,
Plus fort.
Encore plus fort. On va envoyer.
Je parle pour monsieur là.
D'accord. Bon, en fait, la petite histoire, en fait, l'idée des locomotivés, c'est venu de deux choses. C'était devenu de l'idée de... moi, je fais partie d'une entreprise qui s'appelle Laetis, qui produit des sites internet à Arvieux, en milieu rural. Et au bout de 10 ans d'existence, on s'est rendu compte qu'on travaillait pour toute la France, mais qu'on ne consommait pas local, en fait. On s'était un peu désenraciné, on était un peu hors sol, quoi. On était à Arvieux, mais on travaillait pour toute la France. Et à un moment donné, la crise économique, plusieurs reportages nous ont fait prendre conscience que tous les territoires qui n'étaient plus capables de se nourrir eux-mêmes étaient soumis aux premières crises pétrolières et étaient surtout n'étaient plus souverains politiquement. Il y a un petit village en Angleterre qui nous a donné beaucoup d'inspiration, qui s'appelle Totnes. Ça s'appelle le mouvement de la transition. C'est un village de 7000 habitants qui s'était rendu compte que quand il y avait une rupture de pétrole, au bout de 2-3 jours, ils n'avaient plus de quoi manger. Et donc, ils se sont dit, les habitants se sont réunis, se sont dit comment on se démerde ensemble pour trouver les moyens de se nourrir localement. Et la première des souverainetés, c'est d'abord pouvoir s'alimenter. Parce que sans alimentation, il n'y a plus de télé, il n'y a plus de mobilette, il n'y a plus de garagiste, il n'y a plus rien. Hein, donc voilà, tout dépend de ça. Donc il y a des gens qui se sont posés cette question et qui ont fait ça. Donc l'idée est venue de ce qu'on appelle le mouvement de la transition. Donc si certains veulent se renseigner, il y a des vidéos très intéressantes de Rob Hopkins sur Internet. Et l'autre chose, c'était un peu un rêve d'informaticien. Vous savez, on est souvent derrière nos ordinateurs, nous, et puis on aime bien faire les choses par Internet, et on voulait consommer local, sans devoir passer plus de 5 minutes par semaine. C'est-à-dire qu'on n'avait pas envie de faire la tournée de toutes les fermes en voiture, un endroit pour l'œuf, voilà, se poser la question quand est-ce ouvert et tout ça. Et on voulait le beurre à l'argent du beurre, c'est-à-dire en habitant dans un tout petit village, on voulait en 5 minutes pouvoir commander nos produits locaux de la semaine et se faire livrer sans se déplacer, c'est-à-dire se faire livrer dans l'entreprise. Et on s'est dit, ben tiens, est-ce qu'on ne pourrait pas faire quelque chose? Et donc on voulait le beurre, l'argent du beurre, habiter entre guillemets dans le trou du cul du monde, commander en 5 minutes par internet et pouvoir commander sans engagement des produits locaux. Et en plus, on avait ce côté aussi, c'est que les producteurs avec lesquels on travaillait, on voulait pouvoir les rencontrer en vrai, les connaître en vrai, même si on commandait par internet, on voulait pouvoir les rencontrer en vrai. Et le défi qu'on se donnait aussi, c'était de dire, ce territoire, il doit me permettre de me nourrir de manière équilibrée. Si dans les produits que je commande, il n'y a que du fromage, alors j'adore le fromage, mais le problème, c'est qu'au bout d'un moment, que du fromage, c'est pas forcément très bon pour la santé. Donc ça, c'était l'idée, en fait. Vous voyez, à la fois une idée militante, une idée de produire du confort. Quoi, du coup. Et donc, l'histoire, c'est qu'on a regroupé des gens autour de cette idée. Donc Benoît, tu n'étais pas tout à fait au début de l'aventure, mais voilà. Et puis c'est parti, on a bricolé, on a inventé des petites choses. La première année, on a fait 10 000 euros de chiffre d'affaires. Alors bricoler, c'était on livrait 5 paniers. À la Haïti, on est 14 personnes, il n'y avait que 3 qui commandaient, donc on s'est dit, bon, c'est peut-être pas une bonne idée. Enfin, voilà. Donc on a commencé en bricolant, en regroupant des producteurs, et voilà. Donc le projet Locomotivé, il a été pensé d'une manière très très simple au départ. C'est se nourrir au plus proche. Donc la notion de plus proche, c'est important. C'est-à-dire que les locomotivés, il y a une majorité de produits bio, mais il n'y a pas que des produits bio. Il y a de l'agriculture à la limite qu'on appelle conventionnelle, peu importe comment on l'appelle. Mais quand on se nourrit au plus proche, et bien on prend ses petites jambes, on marche, et puis il se trouve qu'il y a un producteur de poulet qui est là. Et bien peut-être qu'on va prendre plutôt son poulet que de faire 10 km de plus à pied pour trouver un poulet bio. Je dis ça pour caricaturer, mais la notion de plus proche, on l'assimile quand on marche avec ses jambes. Quoi. Voilà, quand on a faim, on s'arrête à l'endroit où on trouve la nourriture. Donc on essaie absolument au sein des locomotivés de produire de manière saine, en discutant entre producteurs et consommateurs. Il faut savoir que chaque nouveau producteur locomotivé est visité par des consommateurs et d'autres producteurs. D'ailleurs, Benoît, tu fais partie de la commission qualité, je crois. Donc en fait, un peu comme certains connaissent peut-être Nature et Progrès, c'est les producteurs qui se visitent. Et en fait, le plus contraignant pour nous, par rapport à cette idée de transition, ce mot un peu conceptuel, c'est en gros, c'est d'être sobre. C'est le plus créatif et le plus contraignant. Être sobre, si je résume, c'est comment se démerder sans pétrole. Est-ce qu'on pourrait jouer à un jeu où on essaie de faire avec le moins de pétrole possible? Donc il faut savoir, pour prendre un exemple, qu'un kilo d'engrais, c'est à peu près 5 litres de pétrole. Comment on fait pour se débrouiller sans ça? Donc en fait, c'est un jeu très créatif, très dur à tenir. Parce que, voilà. La deuxième chose qu'on s'est dit, c'est d'abord de manger de manière saine, de ne pas s'empoisonner. La troisième chose, c'est de manière équitable. Comment le consommateur peut s'y retrouver? Comment le producteur peut s'y retrouver? Comment tous les acteurs peuvent s'y retrouver? Et une chose qui nous semble très importante, parce qu'elle est peu évoquée, il nous semble, dans les milieux qui veulent changer le monde, les milieux militants, c'est de manière conviviale. La convivialité, vous la pratiquez, vous m'avez dit, la soirée là en deux temps, on boit un coup, etc. La convivialité, c'est très très important pour réussir des projets comme ça, c'est que si on n'a pas le plaisir d'être ensemble, on ne peut pas réussir sur des choses un peu compliquées, quoi. Au départ, économiquement, ça ne marche pas, etc. Donc la convivialité, c'est ce que j'appelle aussi le plaisir. C'est que quand on prend du plaisir à quelque chose, on a envie que ça recommence, voilà. Donc en fait, l'idée, c'était de absolument dans ce groupe qu'il y ait de la... Voilà. On essaie de le faire avec astuce et innovation, parce que pour faire avec le moins de pétrole possible, pour faire avec des gens très différents, dans notre groupe, il y a des informaticiens, il y a des chercheurs de la santé, il y a des producteurs, il y a des bio, il y en a non-bio, il y a des rêveurs, il y a des pragmatiques, etc. Quand ils sont 30 autour de la table, bon, des fois c'est marrant. Le seul moment où ils sont à peu près d'accord, c'est le moment où on mange. Hein, voilà. Donc ce que je trouve fabuleux dans le projet des locomotivés, c'est que c'est un projet qui dépasse nos idéologies et le militantisme. Je dis souvent, tout le monde mange. Quoi. Donc qu'on soit de droite, de gauche, du milieu ou d'ailleurs, je ne sais pas. En tout cas, on mange tous. Donc voilà, et je trouvais que c'était un projet qu'on a démarré qui couvrait tous les champs du militantisme. C'est qu'on a tous les recettes de grand-mère qu'on adore. Donc c'est très profondément culturel. Se nourrir, c'est aussi être en santé. Quelque chose aussi que je dis souvent, c'est que, tel que vous me voyez, mon visage, en fait, il a été fabriqué parce que j'ai mangé depuis un an. C'est-à-dire qu'il y a un an, la matière que vous voyez devant vous, elle n'existait pas. Et donc, des fois, je dis de manière humoristique, aujourd'hui, vous voyez un peu des locomotivés partout sur mon visage, puisque ma peau a été refaite avec tout ce que j'ai mangé. Donc, en fait, on est tous faits de ça. Et je trouvais que symboliquement, c'était s'occuper de nourriture, c'était quelque chose qui était très, 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 très fort. Ouais. Donc, vraiment, la notion de se nourrir au plus proche, qui est importante. Et en gros, les locomotivés, c'est quoi? C'est on a plein de projets. C'est avoir des produits locaux de manière hebdomadaire. C'est faire ses courses. Donc des fois, on achète une confiture. Des fois, pendant 3 semaines, on oublie d'acheter, on n'achète rien. Des fois, on achète tout son repas. Voilà. Donc c'est contrairement aux AMAP, c'est libre. Donc ça a un défaut, c'est qu'on ne sait pas les ventes à l'avance. Ça a une qualité, c'est que les consommateurs qui ont une vie un peu désorganisée comme moi, c'est-à-dire qu'il y a des semaines, je ne mange pas, c'est plus pratique, quoi. Parce que quand on est en vacances, etc., voilà, la map, des fois, on peut gaspiller des produits parce qu'en fait, on n'en a pas besoin une semaine, etc. Donc chaque système a son avantage. La map reste le système, d'un point de vue déontologique, le plus engageant et un des meilleurs, puisqu'il y a vraiment un contrat entre le consommateur et le producteur. Mais il peut pas convenir à tout le monde. Alors nous, en fait, c'était vraiment... On voulait développer l'offre de plats cuisinés locaux, on n'a pas eu le temps, et provoquer des événements autour de l'alimentation, de l'agriculture et de l'écologie. C'est ce qu'on fait aujourd'hui. un groupement d'achat d'épicerie sèche, voilà. Et quelque chose qui nous semble important, et sur lesquels on a certains producteurs qui sont très forts, c'est qu'en fait, parce qu'on n'a pas le temps, parce que c'est dur physiquement, etc., le territoire nous offre des calories qu'on n'exploite même pas. Des châtaigneraies qui ne sont pas cueillies, des pommiers qui ne sont pas cueillis, etc. Et donc la première des sobriétés, c'est de cueillir et de transformer ce qui existe. Et on aimerait bien créer des groupes, petit à petit, qui valorisent les calories du territoire. Les calories, c'est ce qui nous donne notre énergie à nous. Et bien, en fait, comment on peut valoriser? Il faut savoir qu'on a 3-4 producteurs au sein des locomotivés qui font ce qu'on appelle de la cueillette sauvage. C'est-à-dire qu'en fait, ils vont cueillir des mûres qui ne sont pas cueillies, ils vont cueillir des pommiers qui ne sont pas cueillis. On a Philippe qui cueille tout ce qui est petit, châtaigne et mûres. On a le bois Redon à Crespin qui a fait 1000 litres avec des pommiers qui n'étaient pas cueillis et qui sont de très bonne qualité, très gustatifs. Enfin voilà, donc ça c'est des... Donc vraiment, c'est de faire beaucoup plus avec moins. Et ça peut être très créatif. Alors, on est encore loin de se passer du pétrole. Hein. On livre avec un camion qui roule à l'essence. On a parfois des poches de plastique parce que c'est la seule chose qui ne prend pas le gras. Enfin, quand on essaie de se débarrasser du pétrole, on est quand même un peu embêté aux alentours. Donc la notion vraiment qui était posée au départ, c'est que le groupe des locomotivés, ça ne doit pas être un groupe de bio, ça ne doit pas être un groupe d'anti-bio, ça doit être des gens diversifiés. Et le jour où on a fait la photo, je vous garantis, ceux qui voient la photo, on n'avait pas dit aux gens, venez avec un t-shirt de couleur différente. On ne leur avait pas dit. Hein. Ben, vous voyez, on a l'impression que c'est une photo de Benetton. Voilà, tout le monde a un t-shirt de couleur différente. Le principe, c'est à la diversité. C'est-à-dire qu'en fait, on s'est dit, pour qu'un groupe fonctionne et soit innovant, il faut qu'on soit différent. Il ne faut pas qu'il y ait que des agriculteurs, il ne faut pas qu'il y ait que des informaticiens, il ne faut pas qu'il y ait que des retraités, etc. Donc c'est ça qui crée aussi du plaisir et c'est ça que revendique. Enfin, Benoît, tu peux peut-être en témoigner de cette...
Mais disons que le fait d'avoir des consommateurs qui soient... c'est un peu le thème du tract, qui soient acteurs dans l'association, je pense que c'est un vrai plus. Quoi, parce qu'on a par exemple un petit journal qui s'appelle la Chaparelle. Donc là, c'est Hélène Blanc qui s'occupe de la mise en page et tout ça. Donc tous les mois... Il y a des articles qui sont faits soit par des consommateurs, un éditorial, une petite recette de cuisine, une présentation de producteur. Et ça, c'est fait par quelqu'un qui n'est pas agriculteur et qui est complètement bénévole dans l'association, qui est consommatrice et en même temps qui s'y retrouve puisqu'elle vient tous les mois aux réunions. Et c'était aussi le cas de Julie, qui est salariée aujourd'hui, qui était au départ, elle était consommatrice. Donc tu as connu l'association en étant consommatrice. Petit à petit, ben ça tombait bien, tu avais fait des études dans les circuits courts, et puis tu avais envie de travailler dans cette association qui te plaisait, en fait. Et donc, tout ça mis ensemble, ça fait une force que quand on est juste agriculteur, c'est pas tout à fait pareil. Ça donne un éclairage, on va dire, un éclairage en plus, quand il y a ces personnes à côté, voilà.
Et ce qui est important dans ce que dit Benoît, c'est qu'un des plus grands écrivains de la Chaparelle, c'est Benoît, c'est-à-dire que c'est pas un bénévole. Donc voilà, donc c'est important parce que chacun, en fait, on s'enferme très vite dans nos rôles. Et ce qui est très intéressant, c'est que le fait qu'on soit à la fois consommateur et producteur, il y a un exercice que parfois les agriculteurs ne souhaitent pas faire, comme Liliane tout à l'heure, c'est s'exprimer. Voilà. Et c'est un lieu où il y a un apprentissage. Nous, on apprend à connaître ce que c'est le monde agricole et les contraintes physiques du travail. Mais aussi, le monde agricole, parfois, souffre de ne pas s'exprimer ou de laisser ses syndicats s'exprimer à sa place. Et je veux dire, on n'a pas spécialisé les rôles. C'est important que ce soit chacun qui puisse s'exprimer dans la chaparelle. Donc les éditos, c'est souvent pas les bénévoles, c'est souvent les agriculteurs qui les font. Voilà, donc c'est cette notion de formation, parce qu'on est différent, quoi. C'est vraiment cette notion-là... Et en fait, ce qui est important, c'est que même si au départ, il y a des idées militantes qui nous ont guidés, c'est qu'on considère qu'on est d'abord des militants de l'action. C'est-à-dire que si on arrive à faire avec moins de pétrole des meilleurs produits qui rendent la meilleure santé et qui créent plus d'économies, on a gagné, on n'a pas besoin de dire aux gens « arrêtez d'aller au supermarché, on ne veut pas être donneur de leçons, en fait ». On considère que notre action, elle est d'abord réussir à manger local, point. Et ça, c'est très pratique. C'est très, très, très pratique. C'est comment on déplace de la matière, comment on fait qu'elle ne se périsse pas, comment on fait qu'elle reste froide, comment on fait en sorte qu'un maraîcher puisse vivre de son travail, parce que maraîcher bio, il y en a très peu qui vivent de leur travail, il y en a beaucoup qui sont au RSA. Comment on fait pour avoir un vrai salaire avec ça? Comment on fait pour que des gens qui essaient de produire au propre aient un salaire? Parce que comment ça se fait que celui qui essaie de produire au propre ne peut pas vivre alors que celui qui produit sale peut? Voilà. Quand je dis produit sale, je n'ai aucun jugement de valeur là-dessus. Je sais pas. Mais je veux dire qu'à un moment donné, si tout le monde a, si on donnait à tout le monde les moyens de produire au propre, ceux qui aujourd'hui produisent sale produiraient propre. C'est un problème de moyens. C'est qu'aujourd'hui, celui qui produit propre, il travaille 12 heures par jour, il a mal au dos. C'est pas juste. Mais si demain tout le monde en produisant propre n'avait pas mal au dos, eh bien, tout le monde produirait propre. Donc on ne produit pas forcément sale parce qu'on veut produire sale, on produit de la façon dont on peut, le mieux qu'on peut. Lilian est devenu récemment agriculteur bio, tu connais toutes les agricultures. Donc voilà, tu peux peut-être parler de la différence des producteurs qu'il y a.
C'est vrai qu'il y a parfois débat entre les paysans qui ont locomotivé parce qu'en fait chacun voit un peu l'agriculture à sa façon, quoi. Et puis,
C'est bien, c'est un bon exercice. Vas-y, Lilian.
Voilà, donc en fait, au début, comme on s'est constitué un peu en groupe autour d'Arvieux, et forcément, il y avait des gens différents, quoi. Donc, il y avait des gens qui faisaient de l'agriculture conventionnelle et qui faisaient du poulet, mais qui n'étaient pas bio. D'autres qui étaient en agriculture biologique à fond. Moi, j'étais un peu croisé parce qu'on n'avait que les terres en bio, mais le troupeau, comme il n'y avait pas de... Comme le lait ne partait pas en bio, donc on restait en conventionnel sur les brebis. Ça ne veut pas dire qu'il n'y avait pas grand écart, mais essentiellement, la différence, c'était dans l'achat de ce qu'on donnait à manger aux brebis qui n'était pas bio, quoi. Donc c'était la différence. Et donc petit à petit, donc les gens ils se côtoient et apprennent à un peu se respecter parce que au début on a quand même vu un peu que les gens ils étaient un peu dans leur clan, quoi. Ils ne voulaient pas trop. Et donc dès que certains disaient oui, il faut plutôt du bio, les autres se sentaient un peu rejetés. Donc c'était un peu compliqué. C'était sympa, mais c'était compliqué un peu au début. Il y avait parfois, on avait parfois tendance je disais souvent, on n'est pas du même coin, c'est pour ça qu'on ne se comprend pas. Et donc aujourd'hui, on se connaît plus et on a moins de problèmes de communication qu'on avait au début.
Et ce qui est important, en fait, parce que parfois, en fait, on a critiqué les groupes locomotivés parce que les gens disaient c'est bio, enfin, nous, on n'a jamais dit qu'on était que bio. Mais ce qui s'est passé dans le groupe, c'est que des gens qui sont très en avance sur le bio, fréquentant des non-bio, eh bien en fait, ça a permis à d'autres qui étaient conventionnels de progresser plus vite. Donc ce qu'on dit, c'est que si ces facteurs de progrès, nous on mesure le progrès, on a démarré à un point A, est-ce qu'aujourd'hui on est à un point B meilleur qu'avant? Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas être exigeant sur la qualité des produits, c'est pas ça que l'on dit, mais il faut savoir qu'il y a des agriculteurs qui produisent très propres, qui ne sont pas bio, et qui pourraient faire beaucoup mieux encore. Mais économiquement, changer toute leur structure, c'est pas faisable à moins d'un an, c'est pas faisable à moins de deux ans. Donc il faut aussi accepter que les choses prennent du temps. Et souvent, en fait, ce que dit Lilian, c'est que souvent on simplifie les discours. Il y a les gentils et les méchants, enfin, je caricature un peu, mais il y avait des fois cette notion-là. Et ça, c'est pas tenable dans nos campagnes, quoi. Enfin, on a des voisins, et là, évidemment, si on veut progresser, il faut le faire ensemble. Voilà. Donc ça, c'était le côté très satisfaisant, c'est qu'il y a un groupe qualité qui s'est monté de certains consommateurs et de certains producteurs et qui font la tournée des fermes. Et à chaque fois, il y a un contrat moral. Alors, on n'est pas des labellisateurs bio, ça n'a rien à voir, mais un contrat moral de progrès. Cette année, t'en es là, et qu'est-ce que tu peux faire pour que l'année prochaine, ce soit mieux? Et ça, c'est un contrat de progrès qu'on a dit entre nous. On ne s'est pas mis la pression en disant, voilà, c'est... Parce qu'il y a des réalités économiques. Je dis souvent, en fait, quand on juge le monde agricole, moi, personnellement, je ne connais pas beaucoup de gens qui choisissent de diminuer leurs revenus que pour des raisons éthiques. Donc pourquoi on demanderait à des agriculteurs de faire ce que nous-mêmes, nous ne faisons pas forcément? Voilà. Donc en fait, il faut savoir que, pour moi, un maraîcher bio, c'est vraiment quelqu'un qui accepte un revenu et un travail dur pour des raisons éthiques et c'est très respectable, quoi. Et un agriculteur normal, c'est pareil, quoi. Donc voilà. Alors les locomotivés, voilà, la seule chose non négociable, comme je vous disais, c'est la convivialité, ça c'est nos réunions. Donc les réunions, à un moment donné, on mange au milieu, donc ça fout un peu le bordel. Mais vous savez très bien que c'est au moment où on discute tout ce qui se passe. Il se passe un moment symbolique très important. C'est des choses dont on n'a pas confiance, mais on se nourrit les uns les autres. Donc en mangeant les produits des autres, bon ben voilà, il y a quelque chose qui se crée. Et vous voyez, cette salle, en fait, elle fait à peu près maximum 30 personnes. On peut manger en rond, discuter, s'écouter, s'entendre, mieux que ce soir. Voilà. Oui. Et en fait, ce soir, c'est le symbole de quand est-ce qu'on arrête la croissance d'un groupe comme les Locomotivés. Bon, on arrête la croissance d'un groupe comme les Locomotivés, la croissance commerciale, puisqu'on a une croissance commerciale très forte depuis 2 ans, à partir du moment, enfin, c'est notre conviction, où on ne sera plus capable de se regarder les yeux dans les yeux. Parce que Boudon, on va trop grossir, et bien on va mettre un président qui aura fait des grandes études, qui, voilà, et qui finira par défendre autant son poste que les producteurs. Voilà. Et on pense qu'en fait, c'est pas parce qu'il y a des gentils et des méchants, c'est parce que quand vous ne connaissez pas les gens en vrai, ben vous ne connaissez pas les gens en vrai, c'est tout. Voilà. Donc en fait, l'autre jour, on était à la réunion, et je disais au groupe, on présentait les chiffres, la croissance et tout ça, bon, et voilà. Et disant, voilà, attention, notre groupe, il n'est pas fait pour grossir, mais si jamais il y a des gens qui veulent utiliser le système locomotivé, c'est plutôt pour se dupliquer. Il faut que les gens se connaissent, en fait. Voilà. Donc c'est un peu anecdotique, mais c'est de dire que notre croissance, elle se limite au moment où ça devient trop gros et qu'on peut plus se connaître. Quoi. Donc ça, c'est un peu le... Donc c'est un peu décevant pour certains entrepreneurs, parce qu'on se dit, ben, on pourrait faire 2 fois plus. Mais bon, il y a encore du chemin à faire. C'est aussi pour nous permettre, nous, producteurs et consommateurs, de connaître les clients. Si on a trop de clients, au bout d'un moment, on ne les connaît pas. Si le client devient numéro, c'est moins un problème de l'empoisonner. Je dis des choses un peu choquantes exprès, mais quand on ne connaît pas la personne que l'on nourrit, ça devient un concept. Donc quelqu'un qui produit mal quelque chose pour quelqu'un qu'il ne connaît pas, ben, son éthique peut baisser. C'est pas... Voilà, on est tous un peu... Bon, voilà. Après, je vais laisser... Donc Julie, en fait, Julie, on l'a rencontrée grâce à un producteur, Roland, qui est un producteur d'œufs. L'histoire de Roland, c'est qu'en fait, il fait de la vache, ça marche pas trop mal, mais en gros, il trouve que dans son métier, il est isolé, que c'est pas assez ouvert, c'est ça, Lilian ?
Oui,
tu connais bien Roland. Mmh. Et il dit, moi, je passe un bon moment de la semaine, c'est quand je vais livrer au locomotivé. Et les gros, il faut savoir que le professeur d'école, on peut être assez isolé dans sa ferme, et que c'est l'échange, et il y a des gens qui trouvent ça agréable dans leur chiffre d'affaires. Dans le chiffre d'affaires de Roland, les œufs, ça représente combien, Lilian ?
Je sais pas.
5%. Il a fait des œufs que pour entrer au locomotivé, Roland. Donc c'est pas rationnel, c'est pas rationnel. Sur le plan économique, c'est pas du tout rationnel. Si vous comptez le temps qui passe à venir livrer ses œufs, etc. Par contre, ce qui fait très plaisir, c'est à nous, consommateurs et à producteurs, c'est qu'on a un moment où on échange des idées, où on rencontre de nouvelles idées et de nouvelles personnes, et on se sent surtout plus fort et moins isolé. Quoi. Donc en fait, on a pas mal de producteurs qui témoignent de ça. C'est le côté. Moi, je viens pas en livraison, Benoît, mais voilà, tu peux...
Bah, disons que c'est un peu une chaîne humaine, quoi. Parce qu'en fait, on essaie d'optimiser en fait, nos circuits voitures. Donc en fait, un producteur prend non pas seulement sa marchandise, mais prend la marchandise de 2, 3, 4, 5... On peut avoir parfois dans la voiture 7 personnes, 7 marchandises différentes qui ont fait chacune 10 km pour arriver à la fin à Cap-Longue. Moi, je ne sais plus quelle livraison c'était. Il y a 2 livraisons de ça. J'avais des galettes des rois, j'avais des fromages à Lilian, j'avais les fromages à Francis, j'avais les fromages à Serge, j'avais la farine de Gers, qui est un paysan boulanger, qui est le paysan boulanger du panier paysan. Et qu'est-ce que j'avais encore ? Mes yaourts à moi. Et les œufs de Roland. Les escargots. Non, pas ce coup-là. Ils n'ont pas réussi à suivre.
Les gâteaux, ils étaient à l'amour.
Non, c'est pour vous dire qu'on essaie d'optimiser nos chemins pour optimiser les tournées par rapport aux kilomètres. Et puis nous aussi, ça fait moins de temps passer. C'est-à-dire que, par exemple, on s'est organisé par petites tournées. Donc avec Lilian, Roland et moi-même, on y va entre une fois sur deux, 2 fois sur 3, suivant la... Ou une fois sur 3, suivant le nombre de paniers qu'il y a par mois. On n'est pas amené à aller à chaque fois. Donc... Si c'est à Lilian d'aller livrer, il va prendre la marchandise des collègues et ainsi de suite. Donc ça, c'est un point qui est quand même intéressant parce qu'on est dans des métiers où la vente directe, c'est chronophage. Donc c'est-à-dire qu'on peut être très rapidement débordé par le temps et le rapport entre le temps qu'on va passer. Et si on fait que de la vente directe, ça peut vraiment devenir très envahissant. Et donc une organisation comme ça, ça permet quand même de gérer une partie de ces problématiques de temps.
Donc Julie, en fait, a une lourde tâche, c'est que on a raconté grâce à Roland, comme je disais, et à l'époque, on voulait se développer un peu, Et on a proposé à Julie un stage où, où pendant 2 mois, elle s'est engagée, elle a été défrayée, elle a pris le risque. Après, on l'a embauchée en CDI 6 mois. Et c'est elle qui a trouvé la majorité des points relais. Donc, on va vous expliquer comment ça marche, en fait, le système. Et qui a développé le nombre de clients. Donc, en fait, comment ça marche, les locomotivés. Alors, les locomotivés, sur le schéma, rapidement, mais les locomotivés, c'est 20 producteurs bio qui sont sur le Lévézou et jusqu'ici. Et ce sont surtout, ce qui est l'innovation, c'est 20 points relais bénévoles. C'est le pressing de Sébazac, le bureau de tabac de Flavin.
Un magasin de vêtements pour bébés à la Primombe. Voilà. Des entreprises.
Des entreprises, qui au niveau des entreprises, etc. Mmh. Ces gens ont choisi d'être points relais bénévoles. C'est-à-dire qu'en fait, il y a des colis qui vont arriver chez eux. Et il y a 1000 clients, 1000 contacts clients. Et chaque semaine, ce n'est pas les mêmes qui commandent. Il y a une semaine, il y a un client qui commande, et c'est un autre la semaine d'après, etc. Donc, il faut organiser tout ce bordel, entre guillemets. Hein, voilà. 20 producteurs, c'est à peu près 300-400 références aujourd'hui. 300-400 références qui changent toutes les semaines, parce que le maraîcher, il n'a pas les mêmes références toutes les semaines. Donc, il a fallu organiser tout ça. On vous expliquera tout à l'heure comment. Et Julie, en fait, elle a pris le risque de travailler avec les locomotivés. Elle a fini par être embauchée à temps plein, en CDI, etc. Et à développer tout ce qui est nouveaux points relais et relations clients. Donc voilà, elle va vous expliquer un peu ce qu'est l'association. Et rapidement, parce que ce n'était pas les chiffres, mais pour vous dire les chiffres aujourd'hui, on a commencé 10 000 euros la première année. Deuxième année, 40 000 euros. 10 000 euros, c'est ridicule au sens écologique, je veux dire. On se dépassait beaucoup pour livrer 3 trucs, quoi. Donc au bout d'un moment, ça ne marche pas. Et là, cette année, on est à 280 000 euros avec à peu près 180 paniers par semaine. Et qu'on livre dans 20 points relais différents, en fait, dans une seule tournée. Enfin, dans 2 tournées. Et la tournée principale qui livre 120 paniers, c'est ça ? A consommé 700 euros d'essence en un an. Donc c'est assez peu, vous voyez. En un an, on a arrivé à livrer tous nos paniers pour 700 euros d'essence. Donc Julie, je te laisse te présenter l'association et puis présenter ce que tu as envie.
Donc, dans le prolongement de ce que disait Benoît, en fait, le mercredi, donc les producteurs viennent au local à Kaplonga. Donc, les producteurs viennent au local à Kaplonga.
Que vous voyez en haut à gauche.
Du coup, précédemment, en fait, le mardi.
Excusez-nous, c'est où
Kaplonga? À côté d'Arbieu.
Non.
Enfin,
à côté.
Arbieu. Arbieu, c'est commune. Kaplonga, c'est pas commune.
Voilà. Arbieu, c'est la commune. C'est...
Au milieu du Lévézou, voilà.
Donc, le mardi, en fait, moi, j'imprime la liste des personnes qui ont commandé. Donc, la difficulté, c'est que, voilà, on n'a pas les mêmes clients chaque semaine. On imprime les noms des clients, donc la difficulté aussi c'est de les classer par point relais. Donc on travaille en fait par ligne ou par colonne, chaque point relais est groupé et a un code couleur. Donc ça c'est le travail du mardi. Chaque client a 2 étiquettes, une étiquette pour les produits secs qui vont dans les caisses noires, une étiquette pour les produits frais qui vont dans des caisses en bois, dans une chambre froide qu'on voit en bas. Ça c'est le travail du mardi. Le mercredi, tous les producteurs viennent à Kaplonga avec leurs produits et mettent les produits, on le fait tous ensemble en fait, chacun prend les produits et les met dans les paniers, donc avec une liste. Donc pour ça on a un logiciel qui s'appelle Panier Local qui fait un travail en fait, qui nous dégrossit beaucoup la logistique, puisque toutes les commandes on peut les classer par point relais, par producteur, enfin voilà, ça nous aide beaucoup, c'est notre un outil indispensable. Voilà, et ensuite, donc on commence à peu près vers 10h30, vers 13h30, on charge les paniers dans le camion, on a un camion du coup qui fait la tournée qu'on appelle Nord. La tournée de Kaplonga à Sébazac.
Donc vous avez le camion avec le chargement du camion.
Voilà, donc notre camion. La tournée nord, elle va de Kaplonga à Sébazac. Et ensuite, on a des tournées, la tournée sud, qui prend de plus en plus d'ampleur. C'est la tournée de Réquista, Villefranche de Panal, Reims, La Clause, voilà, Hôpital Bellegarde. Toute cette partie-là, elle est effectuée par les producteurs qui viennent amener leurs produits et qui sont des alentours de Réquista. Les producteurs amènent leurs produits et reprennent les paniers pleins. Ils vont les déposer dans les points relais. Une autre partie des paniers s'en va vers Pont de Salard, à l'office de tourisme et au café du Vior de Pont de Salard.
Et là, vous avez dans les points relais...
Donc, les paniers, ils arrivent dans les points relais. Les caisses en bois vont au frigo. Les caisses de produits secs sont stockées à côté. Voilà.
Et en fait, chaque consommateur va laisser la boîte, va prendre ce qu'il y a dans la boîte et le mettre dans son panier à lui. Donc le point relais, il fait quand même un travail, il accepte de stocker des boîtes. Et à chaque fois qu'on repasse, on prend les boîtes vides et on met à la place les boîtes pleines. Et c'est donc tout un bordel, comme dit Lilian, mais c'est aussi quelque chose qu'on optimise énormément grâce à l'informatique. Imaginez juste avant l'Internet, 200 clients qui changent toutes les semaines, qui commandent des choses différentes, qu'on devrait amener dans 20 points relais différents. Imaginez résoudre ce, avec 1000 contacts clients possibles. Imaginez de résoudre ce problème avec Internet. Vous êtes obligé d'employer 10 personnes pour rester au téléphone, appeler les 1000 clients, savoir ce qu'ils commandent, le noter, le répartir. Donc voilà. Donc en fait, les locomotivés, c'est un système de distribution qui ne pourrait pas exister s'il n'y avait pas le logiciel Internet au milieu. Et surtout, c'est un petit avantage, même si on est désolé que les banques prennent autant d'argent dans ce cas-là, le fait qu'il y ait un paiement par carte bleue, c'est un paiement à l'avance. Donc en fait, il n'y a pas de problème de trésorerie. En termes de sobriété, je vous disais tout à l'heure, faire plus avec moins, le fait de commander à l'avance, pour le producteur, c'est un avantage énorme. C'est qu'il amène des produits qui sont consommés. Un producteur qui va sur le marché, il pleut, il ne voit personne, il a amené 500 kg de matière, il retransporte 500 kg de matière, il n'a rien vendu, il a perdu son temps non seulement, il a transporté la matière pour rien. Donc la commande à l'avance, comme pour les AMAP, comme pour les locomotivés, c'est aussi un moyen d'être sobre. On ne transporte que ce qui est consommé. Donc ça, c'était un des aspects importants. Un autre aspect important qu'on voulait optimiser, qu'on n'a pas pu optimiser, enfin, ou qu'on cherche à optimiser, c'était, on s'est dit, peut-être que le mercredi, quand tout le monde vient apporter ses produits et les met dans les caisses pour qu'ils partent, ça serait bien qu'il y ait peut-être un peu moins de monde, où on pourrait embaucher quelqu'un pour le faire. Et là, en fait, la plupart des gens ont dit « Attends, c'est le seul moment sympa de la semaine, tu ne vas pas nous la lever. » Donc simplement, c'est vous dire qu'à un moment donné, on est aussi dans des logiques de socialisation. Quoi. Le moment où tout le monde fait équipe, c'est ce moment-là. Donc on pourrait devenir plus sobre, mais certains ne le veulent vraiment pas. Hein, c'est bien, c'est...
Ah, voilà, c'est...
Ouais, c'est, voilà, tu peux, c'est alors Julie peut en témoigner plus parce que moi je participe rarement au tournée, mais vas-y.
C'est vrai que la journée du mercredi, enfin, la matinée, c'est un moment convivial où c'est en dehors des réunions mensuelles, en fait, c'est le jour où les producteurs se retrouvent. Donc c'est vrai que c'est un moment convivial, même si voilà, ça demande de l'attention et pour pas faire d'erreur, mais c'est un moment auquel les producteurs tiennent beaucoup. Et même moi, je vois la journée du mercredi, c'est vrai que c'est... On pleure pas, quoi.
Alors Julie, elle a dû retâche d'éviter les erreurs, tout en restant souriante et en faisant que ça marche, quoi. Donc en fait, c'est assez marrant, mais voilà, il faut savoir que chaque erreur, en fait, client, ben, le lendemain, ça va être entre 2 et 4 heures de travail. Parce que chaque client pour lequel on a fait une erreur, on essaie de lui ramener le produit le plus vite possible, on l'a au téléphone, etc. Donc une erreur, c'est très très dur à retrouver. Une caisse au mauvais endroit, il faut aller la rechercher, etc. Donc le système est quand même fiable, puisque l'année dernière, sur 280 000 euros de chiffre d'affaires, il n'y a eu que 1 000 euros de produits perdus et d'erreurs. Donc c'est, enfin, que. C'est toujours trop, mais sur ce volume-là, c'est pas...
C'est un système qu'on essaie de verrouiller de plus en plus avec des petits outils. Par exemple, si, pour savoir quand on amène nos produits, si c'est une erreur du producteur ou une erreur des agriculteurs qui ont essayé de mettre en rayon. Donc Julie, elle édite une synthèse de tous les produits. Donc quand on arrive avec les produits du... Comme je vous disais tout à l'heure, on faisait du covoiturage, on compte tous les produits avant de les mettre en rayon. Parce que si on ne fait pas ça avant, par exemple, vous mettez en rayon, vous repassez chacun des clients pour voir si c'est vous qui n'avez pas fait une erreur, et si ça tombe, c'est le producteur qui a oublié un pot, et on essaie, c'est tous ces petits détails-là mis bout à bout qui font qu'on essaie à la fin de faire du zéro faute. Quoi. C'est quand même le but. De voilà.
S'il en reste, dommage.
Ben, s'il en reste, c'est pas mal. Ouais.
Après, si on prend du recul, en fait, pourquoi le monde agricole, à un moment donné, a perdu, lui, sa souveraineté, ce qu'il a laissé à d'autres faire la distribution. Il a laissé à d'autres la compétence de distribuer. Il a laissé à d'autres la compétence de comprendre, de connaître le client. Ce qu'on est en train de voir, c'est qu'on était tous des blaireaux quand on a démarré. C'est-à-dire, on ne savait même pas ce que c'était une étiquette. On a tous progressé à logistique. Et donc, c'est une nouvelle compétence du territoire. C'est ça, la transition. C'est-à-dire qu'on est devenu plus résistant. C'est-à-dire qu'on est capable de comprendre, parce qu'on a créé un système logistique, on est capable de comprendre un grand distributeur un peu mieux, de comprendre ses contraintes, et aussi de peut-être mieux lui résister s'il voulait nous nuire, parfois. Donc, c'est une acquisition de compétences collectives. Enfin, je veux dire, c'est... Puis, pareil, je vous donne une anecdote qui est intéressante, il y a ce qu'on croit et la réalité. On distribuait par Internet au début, et donc, plein de producteurs ont dit, mais c'est pas un circuit court, on ne voit pas le client. Donc on a téléphoné à plein de clients, on a envoyé des enquêtes, et on a dit, mais est-ce que vous voulez voir les producteurs? Et ils ont dit, mais on vous fait confiance, on s'en fout de vous voir. Et ça a été intéressant, et cette enquête, ça a été fait par chacun d'entre nous. C'est-à-dire, ça a été fait par les bénévoles, par les producteurs, etc. Chacun s'est rendu compte de la réalité. Parce qu'on peut dire, il faut absolument voir les clients, mais si les clients ne veulent pas vous voir... Vous n'allez pas aller chez eux, frapper, bonjour, je vais vous voir. Voilà. Donc...
Il y avait un complexe. Au début, les producteurs étaient complexés parce qu'ils disaient que s'ils ne voyaient pas le client, ils pensaient qu'ils ne le considéraient pas suffisamment. Quoi. Donc, bon, en fait, c'était pas. On se pose plus moins ce genre de questions. Quoi. Et puis, il y a eu des animations, des soirées un peu, ou des soirées comme ce soir pour rencontrer les gens. Mais c'était moins une. C'était moins une attente des clients que ce qu'on pensait. Quoi.
Alors on a notre super arme secrète pour rencontrer les clients, c'est de faire une erreur de livraison. Et c'est... voilà.
Donc voilà, un petit peu la logistique. Et donc du coup, à partir là, c'est le point relais du couvent à Arvieux. Donc on a beaucoup de commerces. Donc en fait, c'est le commerçant qui remet le panier au client. On a des commerçants qui prennent leur rôle très à cœur et qui sont très impliqués pour les locomotiver. Vincent l'a dit, mais ce sont des bénévoles, donc c'est quand même important de le souligner. Voilà. Qui font bien le lien, en fait, qui sont le maillon indispensable en fait entre nous et le client, parce que finalement, le client commande sur Internet et ne voit pas de locomotiver jusqu'à obtenir son produit.
Voilà, donc en fait, c'est simplement, ça c'est, moi j'aime bien les concepts, je suis désolé, mais simplement, en fait, c'est un peu comme la nature, on a plein d'ingrédients, on a des consommateurs, des producteurs, des points relais. Il fallait faire monter cette mayonnaise, c'est comme des ingrédients, il fallait remuer cette mayonnaise. En fait, cette mayonnaise, comment on a réussi à la motiver? En fait, c'est d'abord de l'animation. C'est Julie, c'est Stéphanie, c'est les producteurs, c'est les bénévoles. Moi, j'appelle ça l'art du faire ensemble. C'est comment on fait pour passer un bon moment ensemble. Comment on fait ça? Donc, pour faire monter cette mayonnaise, il fallait mélanger les ingrédients. Donc, d'abord, c'est une bonne animation. Une bonne animation, c'est aussi parfois de l'abnégation, parce que des fois, on s'engueule, quoi. Voilà. Après, s'il n'y avait pas eu l'outil numérique, s'il n'y avait pas eu le logiciel Internet au milieu, c'est une entreprise de Nantes qui fait ce logiciel, c'était impossible de faire monter cette mayonnaise. C'est comme si vous deviez faire une mayonnaise sans fourchette ou sans batteur, quoi. C'est pas possible. Et après, la logistique. Donc en fait, c'est simplement que sur le territoire, on avait toutes les ressources. On avait des producteurs, on avait des consommateurs qui avaient envie, des points relais qui avaient envie. Il y avait toutes les ressources et il suffisait de trouver comment les mélanger. Et en fait, partout, on peut inventer de nouvelles façons de travailler ensemble. Et les commerces qui jouent le jeu, ils ne le font pas non plus que pour des raisons bénévoles. Ils le font tous avec une certaine conviction, mais c'est parce qu'aussi, c'est une manière de maintenir du trafic dans leur commerce. C'est aussi, donc, voilà, donc en fait, il y avait tout existé, il suffisait de le mélanger. Donc, et on a plein de choses à inventer encore. Voilà, ce soir, c'est une invention. Voilà, vous tournez dans des bars différents, donc vous créez une économie locale avec des rencontres nouvelles, puisque c'est pas les mêmes gens. Voilà, chaque fois on peut faire des inventions, ça intéresse à la fois les bars, à la fois les... Et donc, je pense que ça a duré assez longtemps, cette première partie. Voilà, donc je sais pas, après, peut-être un débat après, je sais pas. Voilà.
Tout à fait ça. Donc là, on arrive à l'entracte convivial. Et donc, on reprendra d'ici un quart d'heure. Entre-temps, vous pouvez aborder les agriculteurs et les consommateurs de locomotivés, bien entendu. Il y a aussi des gens de la PAVA, il y a aussi donc, les gens du panier paysan, il y a aussi... Donc, vous pouvez discuter avec eux. On reprendra dans un quart d'heure. Mais on va essayer de changer encore une fois un petit peu la disposition, puisqu'on ne va pas se servir de l'eau.